Voilà, bonjour à tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. On veut aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui sont de passage au milieu de nous. On a des chrétiens d'Albertville. En tout cas, soyez les bienvenus au milieu de nous. Et sans plus tarder, partager sur un sujet particulier. Tu peux mettre l'image, s'il te plaît. Je pense que durant cette semaine, vous avez entendu parler de cet homme, Stephen Hawking. Un grand physicien spécialiste de la cosmologie qui est décédé le 14 mars 2018. Il est né à Londres, passionné de mathématiques. Il va s'inscrire dans une grande université. Et il va s'inscrire dans l'université de Cambridge. Mais comme cette université ne propose pas les maths, il va se passionner pour la physique, notamment la cosmologie, les trous noirs, tout ce qui concerne l'univers dans son ensemble. Cet homme sera diagnostiqué à partir de 20 ans d'une maladie que l'on appelle la sclérose latérale amyotrophique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les conséquences, c'est que ça amène à une paralysie totale de tous les membres du corps et la fin, c'est la mort. Il va obtenir son doctorat. Il est déjà avancé dans cette maladie. Et il va quand même obtenir son doctorat. Il aura perdu l'usage de la parole, mais il va subir une trachéotomie, c'est-à-dire qu'on va lui ouvrir et il perdra l'usage de la parole. Et on lui mettra un appareil qui va l'aider à parler, qui va l'aider, qui est relié à un ordinateur et qui émettra des sons par rapport à l'action de ses joues. Et il parlera comme cela. Pourquoi parler de cet homme? Quand je lis la biographie de cet homme, c'est la passion qui brûle dans son cœur. La passion pour la physique, la passion pour les mathématiques, et qui a fait qu'il a consacré toute sa vie entière, malgré sa maladie, malgré la maladie qui a conduit à la mort, malgré les atroces souffrances physiques. Il avait perdu l'usage de ses membres, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus se nourrir, il ne pouvait plus se laver, il ne pouvait plus faire grand-chose. Mais ce qui caractérise cet homme, c'est la passion, l'amour qu'il avait pour la physique. Je ne veux pas faire l'éloge de cet homme. Je ne vais pas faire l'éloge, bien qu'il ait été un grand homme, qu'il a contribué à la physique. Mais ce qui me frappe chez cet homme, c'est la passion, c'est l'amour, qu'il a fait dépasser les limites, même physiques. Il pouvait se dire, ben c'est fini, avec ma maladie, je vais arrêter là, je vais rester chez moi. Et puis, non, il a continué. Il a été professeur jusqu'à 66 ans dans une des universités les plus grandes d'Angleterre, prestigieuse, jusqu'à 66 ans. Un pilier au niveau de la physique. Mais parce qu'il était un homme passionné, un homme qui aimait ce qu'il faisait. Dans Matthieu chapitre 24, les versets 12, on lit ceci, une parole de Jésus, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Un passage que l'on connaît tous. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Avant d'aborder ce texte, j'aimerais qu'on puisse revenir dans le contexte de pourquoi Jésus a posé cette question, pourquoi Jésus a détaillé tous ces textes dans Matthieu 24. À qui s'adresse-t-il? Tout d'abord, il répond à l'interrogation des disciples. Le texte nous dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Après avoir admiré le temple, Jésus avertit ses disciples que le temple va être détruit. Et c'est de cette destruction dont il parle. Bien souvent, les lecteurs de la Bible l'ont considéré comme un texte qui nous concerne la fin des temps, qui concerne l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps, la fin, les choses qui seront les derniers. Mais quand on lit le texte, ça ne concerne pas les temps derniers. C'est pour un contexte précis. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus dira ceci au Matthieu 24, verset 34. Je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et on sait très bien que dans la Bible, une génération est égale à 40 ans, à peu près. Les paroles de Jésus ayant été prononcées dans les années 30, on sait que quand on compte 40 années plus tard, c'est dans les années 70 que le temple de Jérusalem a été détruit. Je vous encourage à le relire, à regarder les dates et les textes, et vous verrez que 40 années plus tard, quand Jésus a prononcé cette parole, 40 années plus tard, le temple a été détruit. Prophétie apportée, prophétie accomplie, 40 années plus tard. Un autre détail pour nous aider à comprendre le texte, il est important de souligner que Jésus s'adresse aux Israélites de Judée. On lit dans le texte de Matthieu 24, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Et nous avons des sources qui sont extra-bibliques, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de la Bible. Un historien juif du nom de Flavius Joseph écrira un livre, « La guerre des Judéens », et qui confirme vraiment les prophéties accomplies par Jésus-Christ. Il dira ceci, je cite, « Avec un détachement de son armée, Celtius, qui était un gouverneur romain, marcha sur une ville forte de Galilée, appelée Zabulon, qui marque la frontière entre Ptolémaïs et les Judéens. Il la trouva vidée de ses habitants. Les gens s'étaient enfuis dans les montagnes. » C'était un réflexe de l'époque. À l'époque, quand il y avait quelque chose une guerre ou des choses dues à la nature, le réflexe qu'il y avait, c'était de s'enfuir dans les montagnes. Et l'historien le rapporte. Jésus dira aussi que, à cause du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de la croissance du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Un texte de Flavius Joseph dira que, à cette époque-là, il y a eu, entre guillemets, des personnes qui se sont converties au christianisme et qui, à l'époque, étaient considérées comme une secte parce qu'ils n'adoraient pas l'empereur, ils n'adoraient pas les divinités locales. Et Flavius Joseph va dire dans ce livre, La guerre des Judéens, il dira que ces chrétiens-là, à un moment donné, il y avait une effervescence. Tout le monde se convertissait, tout le monde venait à Christ. Et puis, au fur et à mesure, il décrit que ces chrétiens-là retombaient dans leur revers. Parce qu'il y avait l'oppression des Romains, il y avait eu les taxes qui faisaient que ça mettait un fardeau sur le dos des Judéens. Et cette parole-là est accomplie également. Mais comme tout bon historien, l'historien dira que l'histoire se répète toujours. L'Ecclésiaste dira, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé autrefois se passe encore aujourd'hui et se passera encore. À cause de la croissance du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on voit dans le Nouveau Testament que l'amour du plus grand nombre se sont refroidis. Souvenez-vous de Démas. Lorsque Paul dira, Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle présent. les choses se sont retrouvées encore. À l'époque de Paul, à l'époque des pères de l'Église, à l'époque de, même du réveil de l'Église, ça s'est retrouvé encore et encore, et on le retrouve encore aujourd'hui. Dites-moi si cela est faux. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans les évangiles, quand Jésus annonce à ses disciples qu'il va à Jérusalem parce qu'il doit subir d'atroces souffrances, on lit ceci dans Matthieu chapitre 16 et, le verset 21. Matthieu chapitre 16 et le verset 21. On lit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Dans un autre évangile, l'évangile de Marc, au chapitre 8 et les versets 31, on lit ceci. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité trois jours après. Un autre passage, l'évangile de Luc, chapitre 9 et les versets 22. Et il ajouta, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il doit être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Comme cet homme que nous avons parlé, Stephen Hawking, la passion qui l'animait, l'amour qui refroidit, ce siècle présent où le mal s'accroît. On le constate tout, hein. Il n'y a qu'à allumer la télé, regarder BFM TV, regarder tous les reportages, et on prend conscience que le mal s'accroît. Le mal s'accroît. Mais Jésus nous met en garde que le mal va s'accroître, mais l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand on perd l'amour, nous, en tant que disciples de Christ, nous devenons des religieux. Quand on perd l'amour pour notre bien-aimé Sauveur, même si nous venons les mardis, les vendredis, les dimanches, malheureusement, nous devenons des religieux comme les pharisiens de l'époque. Jésus veut nous encourager ce matin à renouveler cette passion, à renouveler l'amour. Je suis ici ce matin, non pas parce qu'on se réunit d'habitude, c'est habituel, non, parce que je viens offrir ma louange et mon adoration envers ce Sauveur glorieux, Jésus-Christ. Dans les évangiles que nous avons lus, Marc, Matthieu et Luc, lorsque Jésus annonce à ses disciples qu'il fallait qu'ils montent à Jérusalem pour souffrir, c'est intéressant de voir que c'est le même mot dans les trois évangiles. C'est le même mot. En grec, pola pathein. Pathein qui signifie subir d'atroces souffrances, que ce soit morale, que ce soit spirituel, que ce soit physique, mais également un fort désir de passion. Comme une pièce de 1 euro avec deux faces, ce mot signifie souffrir beaucoup, mais un amour fou, un amour irraisonné, un amour passionnel. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, dans les quatre évangiles, voir avec vous comment nous décrit les auteurs la passion de Christ. Et qu'est-ce qu'elle a à nous apporter? Qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner ce matin pour nous? Tout d'abord, l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, l'auteur nous présente l'évangile, nous présente les événements et veut faire découvrir la puissance et l'autorité de Jésus. Quand on lit l'évangile de Matthieu, on voit Jésus qui sait ce qui va lui arriver. Il sait qu'il va être trahi. Il sait qu'il va souffrir beaucoup. Il sait qu'il va mourir, qu'il va aller à la croix du calvaire. Il sait tout cela. Il sait qu'il va être abandonné. Mais il est maître. Il est maître de la situation. Rien ne lui échappe. Bien souvent, il nous arrive des situations et on se dit, mais Seigneur, tu n'es pas maître parce que j'ai l'impression que tout va de travers, parce que cela ne va pas à mon sens. Mais Jésus sait toutes choses. Il est maître de la situation. On a l'impression, quand on lit l'évangile de Matthieu, que ça va finir mal. Ça finit mal. Et on a l'impression que ça va en finir là et que tout le monde sera triste. Mais alléluia, ça ne finira jamais triste. Parce que Christ va ressusciter. Il maîtrise toutes choses. Nos situations, nos vies, ce que nous traversons aujourd'hui, tout est sous contrôle. Peut-être que toi, tu ne contrôles pas la situation. On aimerait bien contrôler la situation, n'est-ce pas? Moi, Kevin, j'aimerais bien contrôler ma situation, prendre en main mes épreuves, prendre en main ce que je vis et contrôler pour que je sois tranquille. Mais la vie chrétienne n'est pas comme cela. La vie chrétienne n'est pas comme cela. Jésus nous l'enseigne. Jésus l'a vécu. Il veut nous le communiquer encore ce matin. Il accepte les événements qui lui arrivent. Il les accepte parce qu'il les prévoit. Matthieu présente Jésus comme celui qui est maître de la situation. Il connaît d'avance. Il l'accepte volontairement. Par exemple, lors du repas de la Sainte-Cène, le repas pascal, Matthieu 26, verset 18, « Son temps est proche, il accepte. » Il dit à ses disciples, « Le temps est proche, mais je vais le faire. » Ça sera d'atroces souffrances, ça sera l'abandon, ça sera le rejet, ça sera la moquerie. Ils vont le frapper pour il n'y a pas de motif, il n'y a pas de motif valable pour le frapper. Mais il accepte. Il accepte. En même temps qu'il dit que le temps est venu, le Sanhédrin se réunit et décide d'arrêter Jésus. Matthieu 26, les versets 1 à 4. Il sait que Judas va le livrer. Matthieu 26, verset 25. Il consent de son plein gré à son arrestation. Matthieu 26, verset 53. Matthieu donne une dimension qui transcende ce qui est visible et palpable. Dans Matthieu, on trouve des détails, par exemple l'ouverture des tombeaux, le fracassement des rochers, des saints qui ressuscitent. Des phénomènes qui sont propres à Matthieu. Jésus est décrit ici dans l'évangile de Matthieu comme le nouveau Josué. Quand vous lisez Josué, c'est un conquérant. Mais bien sûr, c'est un conquérant avec les arts. Mais dans Matthieu, c'est un conquérant avec amour. Jésus, comme le nouveau Josué dans Matthieu, va apporter l'évangile. Le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous avec puissance, avec autorité, l'autorité qui vient de Dieu lui-même. Jésus est décrit comme le nouveau Josué et veut faire entrer son peuple dans le royaume de Dieu. C'est là le moment douloureux où Dieu inaugure en lui le monde nouveau. Comme notre maître, qu'est-ce que ça veut dire? Comme notre maître, nous, disciples de Christ, dans notre passion, dans notre amour que nous avons pour notre maître, dans sa douleur comme le Seigneur, nous sommes revêtus de puissance, nous sommes revêtus d'autorité, réclamons encore le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude dans le Saint-Esprit, pour pouvoir annoncer le royaume de Dieu. Inauguré par le Maître et répondre à ce mandat divin. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Un témoin. Le terme original parle de martyros, de martyr, ce qui a donné le mot martyr. Je ne dis pas qu'on va désirer la souffrance, on va aimer la souffrance, et on va désirer cette souffrance-là, non. C'est les choses qui vont accompagner la vie de disciple de Christ. Malheureusement, la vie de disciple n'est pas une vie où on est installé dans un bateau, où la mer est d'huile et on vogue sur des flots tranquilles. La vie de disciple est accompagnée de souffrances, de douleurs, d'épreuves, d'incompréhension. Et dans l'évangile de Matthieu, dans notre passion que nous avons pour Jésus-Christ, lorsque nous nous arrêtons d'évangéliser, lorsque nous nous contentons de notre piété personnelle et on reste à la maison comme cela, nous n'avons pas accompli et nous n'obéissons pas à cette passion qui est au-dedans de nous, la passion de Christ. C'est-à-dire que L'extérieur doit être évangélisé. Nos voisins doivent être évangélisés. Le bassin annecien doit être évangélisé. Le bassin annecien doit recevoir un réveil de la part de Dieu. Mais c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. Lorsque notre amour, notre passion pour Christ diminue, nous préférons nous faire plaisir plutôt que d'aller évangéliser, il y a un déséquilibre. Il y a un grand déséquilibre. Alors que notre maître est allé de village en village, de ville en ville avec ses disciples, revêtus de force, d'autorité et de puissance, pour pouvoir proclamer l'évangile, ce matin, qu'en est-il de nous? Seigneur, revêt-moi encore de puissance et d'autorité, afin d'être ce témoin, afin de recevoir cette capacité divine, la puissance du Saint-Esprit, pour pouvoir parler de toi. Seigneur, je suis timide, mais aide-moi à parler de toi. Aide-moi à être un témoin dans mon travail, avec mon chef qui parfois il est terrible, on a envie de le frapper des fois, mais je veux l'aimer. Donne-moi d'être revêtu de force et de puissance, de cette capacité divine afin de prier pour lui, afin qu'il se convertisse, pour mon collègue de travail qui me fait des blagues à deux balles, parce que des blagues sur le sexe, sur autre chose. Donne-moi de prier pour lui, donne-moi de continuer à persévérer dans la prière pour lui, pour mon mari, pour mon époux qui est inconverti, pour mes enfants qui se sont éloignés de la voie de Dieu, à persévérer. Cet amour, cette passion de Christ qui vit en moi me pousse à persévérer dans la prière. Je conçois que cela soit dur, que tous les jours ce ne soit pas évident. Je le conçois. Dieu comprend la situation. Mais on peut compter sur lui. On peut compter sur lui. Qu'en est-il ce matin? Qu'en est-il ce matin de notre passion pour Christ, pour l'évangélisation? L'évangile de Marc, comment nous décrit l'auteur? On remarque dans cet évangile, je vous encourage à relire ces évangiles, le silence. On remarque dans l'évangile de Marc le silence de Jésus lors de sa passion. Et quand on lit à partir du verset 14, du chapitre 14 de l'évangile de Marc, on voit ce silence qui est très frappant, c'est impressionnant. Marc veut nous heurter, parce que seulement à trois fois, vous vérifierez, à trois fois, Jésus ouvre la bouche dans sa passion. Premièrement, devant le grand prêtre, Marc chapitre 14 et les versets 61 à 62. Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répondit « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Dieu Tout-Puissant venir en gloire avec les nuées du ciel. » Deuxième fois où il ouvre la bouche devant Pilate. Marc chapitre 15 et le verset 2. Pilate l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus le répondit, tu le dis. Et ensuite, la troisième fois, sur la croix, il reprend la plainte du serviteur souffrant d'Ésaïe, Matthieu chapitre 15 et le verset 34. Matthieu chapitre 15 et le verset 34. Vers 3 heures du matin, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu ». Pourquoi m'as-tu abandonné ? La troisième fois où il ouvre la bouche. L'auteur met un focus sur la solitude. Sur la solitude du Sauveur. Il avance, il est seul, abandonné de tous. Et là, dans la nuit de la croix, Marc nous heurte. Le maître est demeuré, même dans des situations les plus compliquées, les plus dures, physiquement, moralement, spirituellement. Comme dira Jérémie au chapitre 3, Lamentation de Jérémie au chapitre 3, le silence de l'Éternel. Il est bon de garder le silence. Bien que la douleur soit vive, Et il met également un focus sur sa solitude. Tout disciple de Christ, comme son maître, sera amené à des périodes précises de sa vie à être seul. Voire même à garder le silence pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu dans sa vie. C'est ce qu'on lit, c'est ce que dit Jérémie. On voit la vie des prophètes, le prophète Jérémie. D'ailleurs, c'est lui-même qui écrira Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 26. Il est bon de garder le silence devant le Seigneur. On voit Élie, abandonné de tous, mais Dieu qui vient le fortifier dans cette période de solitude. Et il lui dit, tu n'es pas seul. Il y a encore 4000 hommes que j'ai gardés pour moi. Jérémie, Élie et bon nombre d'hommes encore. Parce que notre maître a été seul et comprend la solitude. Lui-même, ce matin, est à même de comprendre ce que tu vis, ce que nous vivons lorsque nous nous sentons seuls, abandonnés de tous, incompris. Dans ma passion que j'ai pour Christ, ne regardons pas comme une chose étrange la solitude, ni même garder le silence devant notre Dieu, mais au contraire, faisons partie de l'enseignement, de l'instruction de Jésus-Christ pour nous, parce qu'il lui-même l'a vécu, lui-même l'a expérimenté à un haut degré, que lui-même peut être à même de nous comprendre. Peut-être que tu vis cette solitude. Mais Dieu te comprend ce matin, en Jésus-Christ. Que cela ne puisse pas t'empêcher à l'aimer davantage, malgré tout. La passion dans l'évangile de Luc. Luc, par contre, va nous inviter à réfléchir, vous savez, comme les deux disciples d'Emmaüs sur le chemin qui, de Jérusalem. Ils partaient et Luc nous invite à réfléchir avec eux, comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, sur la passion de Christ. La passion qui sera le dernier combat de Christ. Luc nous montre que tout se joue, tous les luttes et les combats de la passion de Christ se jouent à l'intérieur. Le focus est mis dans le jardin de Gethsémané. Vous vous souvenez de cet épisode? Jésus est là. Prie avec moi. Et Jésus s'en va quelques mètres plus loin. Et il tombe à genoux et prie devant le Père. Un combat intérieur qui se manifeste à l'extérieur par des sueurs comme des caillots de sang. À la fin de ce combat, Jésus sort vainqueur. Et quand on lit la progression de l'évangile de Luc, on voit que malgré les atroces souffrances physiques qu'il subira, Luc nous montre que Jésus va accueillir Judas avec délicatesse. Alors que c'est lui qui va le trahir. Il l'accueille avec délicatesse. Il va guérir l'oreille du serviteur de Malchus. Il va retourner le cœur de Pierre par un simple regard. Il va parler aux femmes qui se lamentaient sur lui. Il dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Il va prier pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous vous imaginez? Il a d'atroces souffrances physiques, il souffre moralement, il a été abandonné, rejeté, moqué, frappé. Et il prie dans ces moments-là. Père, pardonne-leur. Qui serait capable de le faire? Moi, honnêtement, je ne sais pas. De cœur à cœur avec vous, je ne sais pas si j'aurais prié pour ces bourreaux. Et il va promettre au malfaiteur qui sera avec lui dans le paradis. La passion qui nous est décrite dans Luc est une passion qui en ressort, c'est un amour infini, un amour inconditionnel. un amour que le monde ne connaît pas, parce qu'il n'est incapable de le concevoir ni même de le pratiquer. Mais c'est un amour qui nous vient de l'extérieur, qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient de Dieu. C'est cet agapé, cet amour qui est capable de prier pour ses bourreaux, pour ses ennemis, capable de prier pour ceux qui nous persécutent, de pouvoir tendre la joue à ceux qui nous frappent, de pouvoir aimer celui qui se moque de nous, ceux qui nous rejettent, à aller vers eux. C'est cet amour-là qui en ressort. Dans l'évangile de Luc, cet amour infini en ressort. C'est celle de Dieu qui, même dans les moments les plus difficiles, nous transforme. Et nous enseigne à nous, bien-aimés, qu'une passion à toute épreuve découle d'une vie de prière intense. Une passion à toute épreuve découle d'une vie de prière intense. Je vous invite à relire Luc et à surligner avec détail, parce que Luc donne d'autres détails que Matthieu et Marc ne le donnent pas. Par exemple, lors du baptême de Jésus, les autres évangiles diront qu'il a été baptisé et la colombe est descendue sur lui. Dans l'évangile de Luc, il est dit: après qu'il eut prié, une colombe descendit. Pour le choix des 12, Matthieu et Marc diront: et choisit 12 qu'il les appela comme apôtres et les garda avec eux. Luc dira: après avoir prié toute la nuit, il en choisit 12. Et ainsi de suite. Dans l'évangile de Luc, si ça tenait qu'à moi, je l'appellerais l'évangile de la prière. Parce que la prière, le focus est mis sur la prière, sur cette prière intensive. Comment entretenir cette passion pour Jésus-Christ? À travers une vie de prière intense. Comment vais-je faire pour aimer mon épouse ou mon mari qui est insupportable dans la prière? À genoux devant le Seigneur, celui qui a vécu un degré fort par la prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Cette passion-là pour Jésus-Christ nous pousse à l'évangélisation. À ne pas être en paix alors que mon voisin meurt. Les enjeux sont éternels. Cette passion me pousse à, même dans le silence, dans l'incompréhension, à faire confiance à mon Dieu, parce qu'il agira. À lui faire confiance coûte que coûte. Cette passion pour Jésus-Christ, cet agapé divin qui me vient de Christ Dieu, me poussera à prier. Ma faiblesse me poussera à prier, à invoquer mon Dieu, parce que de moi-même je ne peux rien faire. Et vous verrez que votre vie changera, ma vie changera, sera transformée. Je serai à même de pouvoir aimer mon ennemi. Je serai à même de prier pour ceux qui me persécutent. Et ma vie ne sera plus la même. Qu'en est-il de notre passion ce matin? Qu'en est-il de ma passion, Kevin? Où en est ta passion pour Jésus-Christ, ton amour pour Jésus-Christ? S'est-il refroidi face à cet accru du mal? Qu'en est-il ce matin? Ce n'est pas pour jeter un poids de culpabilité ou un fardeau en plus de ce que vous subissez déjà, mais pour se repositionner par rapport à Christ dans un but salutaire. Moi, Kevin, je me repositionne. Seigneur, fais ton œuvre de grâce dans mon cœur. Je veux t'aimer. Cet homme, dont nous avons parlé au début, physicien, cosmologue, malgré sa maladie physique, malgré ses atroces souffrances, il avait des traitements à n'en plus finir. Là, c'est un cas particulier parce que c'est une maladie qu'il avait. Mais peut-être que chacun d'entre nous a une situation particulière, à notre propre niveau, à notre propre... Chacun a des vies différentes, a des personnalités différentes. On est tous différents. Mais par rapport à cet homme, malgré cela, malgré cette souffrance physique, sa passion est restée intacte jusqu'au bout. jusqu'au bout. Alors qu'en est-il de moi? Malgré ce que je vis à ma propre limite, qu'en est-il de ma passion? Et peut-être pour finir, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est particulier, parce que dans cet évangile, il a été écrit longtemps après les faits. C'est-à-dire tous les événements qui relatent la vie de Jésus, les événements liés à Jésus. Et l'auteur, on voit que l'auteur, il a médité. On voit que l'auteur, travaillé par le Saint-Esprit, et également parce qu'il a vu le Seigneur agir dans l'Église, à force de méditation et de réflexion, il médite la passion de Christ et la décrit dans son évangile, l'évangile de Jean, comme la marche triomphale de Jésus vers le Père. Dans son évangile, il souligne la majesté du Fils de Dieu qui souffre. On sait très bien que Jean, c'est un juif. Il a en tête Ésaïe 53, verset 3, où il s'est écrit « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était semblable à ceux dans lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. » Cette parole-là accomplie, Jean chapitre 1, les versets 10 à 11, elle était dans le monde, en parlant de la parole de Dieu, en parlant de Jésus-Christ, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Jean est un juif. Il a dans son esprit Zacharie 9:9. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Accompli. Jean chapitre 12, versets 12 à 15. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent les branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui était écrit. Amen. L'auteur nous décrit la passion de Jésus-Christ, non pas comme une glorification des souffrances, mais comme une célébration de la lutte pour la justice. Jésus dira « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Bien sûr qu'il y a énormément de souffrances qui émergent derrière tous ces textes. Mais l'apôtre Jean ne fait pas l'éloge, ne donne pas gloire à toute cette souffrance, mais à la célébration de la lutte, de ce combat-là pour la justice. D'ailleurs, Jésus dira dans ce célèbre sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. » Car le royaume de Dieu est à eux. Ce qu'il a dit, il l'a vécu. Et c'est de cela que Jésus met l'accent. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux lui appartient. Une lutte pour la justice, non pas avec les armes, non pas en prenant une épée, une kalachnikov et on va à la conquête. Non, mais avec un amour fou. Un amour, une passion irraisonnée pour celui qui donne la vie véritable. Et Jean, je pense s'il était encore vivant à notre époque, dira que pour conclure son évangile, pour que nous, disciples de Christ, nous puissions prendre connaissance, conscience qu'il y a un prix à payer à cette passion. Il y a un prix à payer à cette passion. Ne voyons pas comme une chose étrangère ce qui nous arrive, les événements qui nous arrivent. Parfois, on ne peut pas l'expliquer. On est tenté d'expliquer toute chose. Mais bien souvent, la passion, notre piété personnelle nous pousse à croire et à faire confiance à Dieu. On aimerait bien qu'on nous explique, on aimerait bien contrôler les choses, mais les choses ne se passent pas comme nous le désirons, bien souvent. Mais à faire confiance. Pour terminer, juste deux passages, pour conclure notre partage. la passion qui nous instruit. On l'a lu, Matthieu, revêtu de puissance et d'autorité. Pourquoi ? Pour rester ici, pour adorer le Seigneur, pour rendre un culte à Dieu, gloire à Dieu. Mais pas que. Notre mission est tournée vers l'extérieur. Revêtu de puissance et de force, d'autorité, pour pouvoir apporter l'évangile. L'évangile de Marc, le silence, la solitude. Je ne sais pas ce matin comment vous êtes venu, peut-être dans cette attitude de solitude. Mais la Bible nous encourage à, il est bon de garder le silence devant le Seigneur. L'évangile de Luc, la prière. La passion que j'ai en moi, qui brûle en moi, la passion de Christ me pousse à prier, à persévérer, à être patient dans l'affliction, dans la douleur, dans l'intercession pour les membres de nos familles, mais également pour moi, pour arriver à bon port, à persévérer dans cette vie de prière. Cette passion également, comme on l'a lu dans l'évangile de Jean, me pousse à prendre conscience du prix à payer. Il y a un prix à payer. Comme une pièce d'un euro, il y a deux faces, la souffrance physique, morale, spirituelle, etc., les épreuves, mais également un amour fou pour mon Dieu. Ma foi n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et elle me pousse à obéir à la parole, à tout ce qui est dit dans sa parole, et à la vivre dans la vérité. Cet amour me pousse à vivre la vérité, à rejeter tout ce qui est le mensonge, à tout ce qui n'est pas conforme, et à croire dans ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est véritable. Deux derniers passages, Matthieu 22, versets 35 à 40. Et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour lui mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et un dernier passage dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 et les versets 35 à 39. Une célèbre conclusion de l'apôtre Paul dans ce chapitre. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? Serait-ce l'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, je vais te bénir, te dire merci encore ce matin.